Il y a eu un rapport du syndicat France Générosité qui est sorti très récemment, là, courant janvier, qui fait un constat assez alarmant sur le montant des dons et sur la baisse du montant des dons en 2018, qui est assez importante. Donc il s'explique par plusieurs facteurs, mais notamment il y a une grosse baisse des dons du fait de la suppression de l'ISF. Qui est remplacé un peu par l'impôt sur la fortune immobilière, mais qui concerne nettement moins de gens. Et donc c'est le rapport estime à une baisse de 54% des dons en moins sur 2017, sur 2018 par rapport à 2017.
Pourquoi ? Parce que les gens donnaient aux associations pour réduire leur impôt sur la fortune, c'est ça ?
Ah bah au moins 54% de ces gens-là, oui, 54% des gens imposés sur la fortune, visiblement avaient comme objectif premier de leur don la réduction de leur ISF. L'ISF n'existant plus, leur motivation de don a dû bien chuter. Et du coup, ça chiffre quand même à 150 millions d'euros en moins pour les associations sur l'année 2018 qui provenait de cette source-là.
D'autres raisons alors à la chute des dons ?
D'autres raisons, c'est la baisse de la hausse de la CSG, chez les retraités, qui a fait qu'on sait très bien que les retraités sont quand même des donateurs importants et surtout réguliers qui ont arrêté de donner. Ils estimaient un retraité sur cinq donateurs qui a arrêté de donner aux associations, donc ce qui fait quand même pas mal de monde. L'impôt sur la fortune, on en a parlé, et puis après on sait aussi que la majeure partie des dons, près de 40% des dons, se font en fin d'année, au moment des décembre et des fêtes de fin d'année. Or, il y a eu un contexte social en fin d'année qui a fait que beaucoup de gens se sont posé des questions. On a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, on a beaucoup parlé d'économie des ménages. Et il y a une forte partie des donateurs qui ont probablement préféré épargner de manière plus classique que de faire des dons aux associations. Et puis enfin, un certain nombre d'inquiétudes aussi par rapport au prélèvement de l'impôt à la source. Et donc du coup, est-ce que mes dons vont continuer à pouvoir être défiscalisés comme par le passé ? Tout ça réuni fait que beaucoup de ménages ont décidé de mettre fin à leurs habitudes de dons aux structures associatives.
Alors justement, le prélèvement à la source, qu'est-ce que ça change pour les gens qui ont fait des dons en argent aux associations ?
En fait, pas grand-chose. Le bénéfice de la réduction d'impôt, il est maintenu. Voilà, pour les associations, pour les dons aux associations d'intérêt général et pour les fondations, c'est absolument maintenu et sur les mêmes taux, c'est-à-dire 66% des montants versés dans la limite des 20% du revenu imposable, donc pour les particuliers, ça reste vrai. C'est les modalités et le calendrier de ce remboursement qui est un petit peu différent et qui a changé avec le prélèvement à la source.
Et alors, comment ça change ?
Alors, ce qui évolue, c'est que le remboursement se fait en deux fois. Une première partie donc, qui a commencé, par exemple, pour les dons qui ont été effectués en 2017, qui ont été déclarés donc en 2018, les donateurs vont avoir ou ont déjà, en ce moment, reçoivent l'équivalent de 60% du montant de leur remboursement. En ce moment, à partir du 15 janvier, les versements ont commencé. C'est ce que j'ai pu vérifier sur mon compte bancaire, on avait bien reçu ces sommes-là. Donc c'est quelque chose d'effectif et quelque chose qui marche. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir notre déclaration de revenus à faire au mois d'avril, 2019, où on va déclarer nos revenus 2018. Si on n'a pas eu de revenus complémentaires à ce moment-là, en juillet, a priori, les 30% restants, les 40% restants de remboursement des 66% des montants du don devraient nous arriver sous forme de virement de la part de l'État.
Ces dons aux associations, donc les gens, ce qui est intéressant en fait pour les donateurs, c'est que ces dons sont défiscalisés, on l'a dit. Enfin, il y a une partie en tout cas qui est remboursée. Alors quelles sont les conditions pour que le don à une association soit défiscalisé?
Alors, il faut que l'association soit considérée comme œuvrant dans le cadre de l'intérêt général. En fait, la mécanique, elle est de se dire, ok, si on n'a pas, si on ne verse pas de subvention à ces associations-là, il faut que les dons qu'on leur fasse correspondent quand même à un principe d'intérêt général, à des structures associatives qu'on pourrait par ailleurs financer par la subvention. Vu que l'État donne moins de subventions et qu'il y a moins de recettes de l'État, les gens qui donnent devraient pouvoir avoir ces réductions d'impôts. Donc la notion d'intérêt général, elle est définie par des fiscalistes. Voilà. C'est pas une notion humaniste, c'est pas une notion sociologique, c'est vraiment une notion fiscale. Et donc elle recouvre un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est bel et bien d'être une association, loi 1901. C'est-à-dire que quand l'association a fait du résultat d'exploitation, en fin d'année, ce résultat il est bien réinvesti dans le projet associatif. Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est que l'association doit œuvrer dans un certain nombre de champs qui sont bien définis par l'administration fiscale. Donc c'est les associations qui œuvrent dans le domaine de la philanthropie culturelle, pour le secteur éducatif, pour le secteur scientifique, pour les associations à caractère social ou familial, pour les associations humanitaires également, pour le secteur sportif, et puis pour tout ce qui est toutes les associations de défense de l'environnement naturel, de mise en valeur du patrimoine artistique, diffusion de la culture également, production de présentation au public de spectacle, et puis également les entreprises de presse et les structures d'enseignement supérieur ou artistique. Donc voilà, c'est un certain nombre de champs qui sont concernés, il n'y a que ces champs-là qui sont concernés. Ça c'est le second critère. Ensuite, il y a un troisième critère qui est que l'association ne doit pas agir pour le compte d'un cercle restreint de personnes. Je prends un exemple. S'il y a une association donc à caractère social et familial qui se donnerait pour objet d'aider une famille à aménager un véhicule ou à aménager une maison pour son enfant handicapé, l'association, là, elle œuvre au profit d'une famille. Donc elle ne travaille pas pour l'intérêt général. Par contre, une association qui collecterait des fonds pour aider la recherche sur la maladie qu'aurait cette personne-là, là serait considérée d'intérêt général parce qu'elle œuvre pas pour une seule personne, pour un cercle restreint de personnes. Il faut que l'association ait une politique de vie associative, de bénévolat et travaille vraiment pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est la notion de cercle restreint. Et puis ensuite, c'est la question de la gestion des intéressés. Voilà, il faut que l'association soit ce qu'on appelle en gestion des intéressés, à savoir que elle concurrence pas d'entreprise. Et si son activité est pour être considérée comme dans le champ d'une entreprise du secteur privé, il ne faut pas qu'elle le fasse de la même manière. Voilà, qu'elle pratique des prix différents, qu'elle s'adresse à des publics différents, qu'elle ne fasse pas de publicité et qu'elle propose des activités différentes. Donc moyennant ces quatre critères. Association loi 1901, gestion des intéressés, non-lucrativité et ne pas agir pour un cercle restreint, les associations ont le droit d'émettre ces fameux reçus fiscaux à leurs donateurs.
Mais il vaut mieux que l'association fasse une démarche envers les services des impôts, remplisse un petit dossier pour avoir un papier en gros qui atteste qu'elle est reconnue d'intérêt général ?
Alors pas toujours. Il y a des fois les situations sont extrêmement claires et on peut lire ce fameux article 200 du Code des impôts et puis constater que son association est bien dans le cadre de l'intérêt général et donc on a le droit d'émettre ses reçus. C'est pas un agrément en fait.
C'est différent de l'association d'utilité publique par exemple.
Tout à fait. L'utilité publique c'est un agrément ministériel avec un dossier obligatoire à fournir et des obligations en contrepartie en termes de transparence, en termes de publication des comptes, etc. Là, c'est simplement, il y a un article du Code des impôts qui dit que les structures d'intérêt général peuvent émettre ces reçus de dons. Et donc voilà, charge à nous de bien lire cet article et de bien comprendre comment fonctionnent nos associations. Et si on estime qu'on est bien dans ce cadre-là, les associations peuvent très bien émettre ces reçus sans passer par l'administration fiscale. On passe par l'administration fiscale quand on a un doute, quand on ne sait pas, quand l'activité est compliquée ou quand il y a plusieurs secteurs, il y a un secteur qui est lucratif, où on fait des ventes, où on est, et un autre secteur qui est plus de l'ordre du bénévolat, etc. Donc quand, au niveau de ces activités, on n'est pas trop sûr parce que pour X raisons, par exemple, sur l'humanitaire, les choses sont un peu compliquées, il y a certains pays qui sont concernés et les listes évoluent. Donc des fois les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et du coup, plutôt que d'émettre des reçus de dons à tort et à travers et en dépit du fait qu'on ne soit pas d'intérêt général, effectivement, on peut être amené à poser la question. C'est la démarche c'est ce qu'on appelle une démarche de rescrite fiscale. Messieurs de l'administration fiscale, est-ce que, au vu des pièces qu'on vous donne, vous estimez qu'on est bien dans le cadre de l'intérêt général ?
Et alors, en dehors de la défiscalisation des dons en argent, il y a une autre façon d'aider une association, c'est quand on est bénévole, c'est de renoncer au remboursement des frais. En quoi ça consiste, ça ?
Tout à fait, c'est du mécénat en nature, en fait. Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste dans le fait que les bénévoles, si tant est qu'ils se fassent rembourser un certain nombre, par exemple, de frais kilométriques, l'association a mis en place une procédure de travail là-dessus, on a une fiche de frais, on se déplace régulièrement, on se le fait rembourser selon un barème, et ben, on peut très bien dire, écoutez, moi ce remboursement-là, j'en fais cadeau à l'association. Au lieu que vous me donniez mes 35 euros de frais de déplacement pour le trimestre, je renonce à ça, j'en fais, c'est comme si je les récupérais et que j'en faisais don par la suite à l'association, on renonce à les toucher, et du coup ça peut être considéré comme l'équivalent d'un don.
Donc l'association peut l'inscrire dans son budget notamment, c'est ça en fait.
Tout à fait. Il faut qu'il y ait une procédure au niveau de l'association qui soit claire. Il faut que tout le monde puisse être concerné par ce remboursement. On voit des fois des associations qui ne remboursaient pas, par exemple, leurs bénévoles, et qui se disent il y a peut-être moyen maintenant, si on procède de la sorte, de payer moins d'impôts. Et du coup, il s'agit plutôt de procéder à l'inverse, de dire on décide de rembourser les frais de déplacement à tout le monde, et ensuite uniquement ceux qui souhaitent peuvent renoncer à ces frais de déplacement et les laisser sur le compte de l'association. Donc, il y a des gens qui sont, par exemple, pour les gens qui ne sont pas imposables, moi je suis dans une association où on a mis en place cette procédure-là, il y a un certain nombre d'étudiants qui ne payent pas d'impôts, eux ça ne les intéresse absolument pas d'avoir des défiscalisations, ils ont besoin de cet argent pour faire le plein de la voiture et de toute façon ils ne payent pas d'impôts, donc eux ne renoncent pas à ces remboursements, voilà, ils ont cette possibilité-là. Par contre, les gens qui ont la chance de payer des impôts, nous, on a le choix entre récupérer cet argent, se faire rembourser ses frais, ou dire, j'en fais don à l'association, et pour le coup, l'association nous émet un reçu fiscal du montant de ses frais kilométriques. Mais ça peut être vrai pour également des achats qui sont faits pour le compte de l'association, ça peut être vrai pour des repas qu'on prendrait en charge, qui sont pris en charge d'habitude par l'association, c'est vrai pour du matériel qu'on pourrait acheter pour l'association, ça pour une entreprise qui donnerait du matériel à une association aussi. Donc c'est vrai pour des réparations, des entretiens, des prestations de services. S'il y a un garagiste qui veut bien réparer gratuitement le véhicule de l'association, il donne du temps de travail. Et ce qui aurait dû être facturé peut être considéré comme un don s'il le souhaite.
Mais un bénévole ne va pas déclarer le temps passé pour l'association
Il faut que ça corresponde à une vraie valeur qui aurait une signification sur le marché. Voilà. Un travail bénévole restera bénévole. On ne peut pas le faire défiscaliser. Il faut qu'il y ait une facture pro forma, par exemple, qui soit émise, ou un devis de la part du prestataire qui atteste du coût de la prestation, par exemple, ou du coût du matériel. Et une présence bénévole, elle ne sera jamais facturée. Donc, à moins que ce soit vraiment une compétence professionnelle qui est mise en jeu pour le compte de l'association. Dans ces cas-là, ça fonctionne très bien et il n'y a absolument aucun problème.
Là, c'est le mécénat de compétences, c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences.
Alors, c'est du mécénat en nature, le mécénat de compétences, ça peut être aussi, ce qui est sous cette terminologie-là, c'est plus la mise à disposition de salariés. Ça peut être la mise à disposition de salariés. Un salarié qui reste sous la responsabilité de son entreprise, mais qui vient travailler, il n'est pas salarié, ce n'est pas une prestation. C'est des salariés qui intègrent le staff d'une association. Il y a Orange, je crois, qui faisait beaucoup ça. Des gens qui sont en pré-retraite, et donc du coup qui sont mis à disposition, ils sont toujours salariés d'Orange, ils sont mis à disposition d'un certain nombre d'associations pour... effectuer un certain nombre de missions, mais c'est pas des prestations pures et dures comme pourrait faire un entrepreneur, un garagiste, quelqu'un qui aurait une expertise à un moment juridique ou de la comptabilité ou de la communication. C'est vraiment pour intégrer le personnel de l'association. Ça, c'est au sens strict le mécénat de compétences. Sinon, c'est considéré comme du mécénat en nature, en fait. C'est du prêt de main d'œuvre.